Bon réveil à tous, voilà le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les dépenses publiques en France, elles sont trop élevées, dit ce matin la Cour des comptes dans son rapport annuel. Elle chiffre à 50 milliards d'euros les économies nécessaires d'ici 2027 et cible l'optimisme du gouvernement concernant ces prévisions. On y reviendra dès le début de ce journal.
Le nouveau calendrier parlementaire, il a été précisé hier avec en tête des réformes sur lesquelles vont plancher les parlementaires la fin de vie.
Les députés qui vont également discuter dès cet après-midi de l'aide française à l'Ukraine, l'occasion de clarifier les positions des partis avant les élections européennes. Après ce journal, Marguerite Caton, votre question du jour.
Nous parlerons du Ramadan. Quelles sont les pratiques des jeunes musulmans ?
Réduire les dépenses et accélérer les investissements nécessaires, c'est le dilemme que met en lumière la Cour des comptes dans son rapport annuel qui paraît ce matin. La situation des finances publiques françaises, avertit le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, est plus dégradée que jamais. Il faudrait, pour arriver à un déficit acceptable, et toujours selon la Cour, conduire 50 milliards d'euros d'économies sur la période 2025-2027. Or, ce que prévoit le gouvernement, qui vient pourtant d'annoncer un programme d'économie drastique pour les deux ans à venir, n'est pas assez ambitieux. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
Ce que dénonce aussi la Cour des comptes ce matin, c'est l'optimisme du gouvernement dans ses prévisions économiques.
Oui, on a vu ce que donnait une prévision trop optimiste. Passer d'1,4% de croissance comme espéré il y a 6 mois à 1% comme admis il y a 3 semaines oblige à trouver 10 milliards pour éviter que le déficit ne s'envole. Or, optimiste, Bercy l'est aussi sur les prévisions de recettes à lire ce rapport annuel. En 2023, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts sur le revenu, sur les sociétés, la TVA et les cotisations sociales, ont moins augmenté que le PIB. Ce fut la mauvaise surprise de cette fin d'année. En 2023, les recettes ont été inférieures de 7 milliards à ce qui avait été prévu. Or, il y a une correspondance entre l'activité économique et les recettes. Mais en 2023, pour 1 de croissance, on a fait 0,6 de recettes. Or, pour 2024, le gouvernement prévoit que pour 1 de croissance, on aura 1,1 de recettes. Passer de 0,6 constaté à 1,1 espéré cette année, sans être expert en finances publiques, on comprend qu'il y a un potentiel problème. Optimiste en 2024, les scénarios retenus par Bercy le sont aussi pour les années suivantes. Le pari le plus grand étant celui du retour au plein emploi. Le taux de chômage est certes au plus bas depuis des années, 7,7%, mais il ne baisse plus. Et les prévisions de la Banque de France le voit remonter à 7,8% en 2025, nous dit la Cour. Donc, faute de précision sur les mesures envisagées, le retour au plein emploi affiché apparaît hypothétique, nous dit ce rapport de la Cour des comptes. Or, pour rétablir les comptes publics, Emmanuel Macron en campagne le disait ainsi en 2022, son projet c'était la croissance et le plein emploi. Ces deux piliers étant vacillants, mieux vaut tabler sur des réductions de dépenses, nous dit la Cour, qui les estime en effet à 50 milliards d'euros entre 2025 et 2027, à minima, car 50 milliards, c'est si tous les paris optimistes du gouvernement se réalisent.
Merci Marie. Et puis du côté des investissements nécessaires, la Cour regrette également l'imprécision des chiffrages concernant les dépenses qu'il faudrait, cette fois pour que la France notamment s'adapte au changement climatique. Sur ce sujet, nous reviendrons dans le journal de 8h et puis nous vous retrouverons dans le journal de l'Écho, Marie Viennot, pour un point sur la réalité des économies souvent annoncées, pas toujours réalisées. Enfin, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, sera l'invité des matins à partir de 7h40. Un accord à 25. Hier, les États membres de l'Union européenne se sont accordés pour renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques type Uber ou Deliveroo. La France et l'Allemagne n'ont pas approuvé le texte. Au total, 28,5 millions d'Européens sont concernés par les modalités de la directive, principalement la requalification comme salarié des livreurs de repas ou chauffeur de VTC indépendant. Mais alors que le texte initial créait une présomption de salariat sur la base d'une série de critères, le compromis retenu finalement renonce à ces critères et laisse les États membres décider de la qualification de ces travailleurs. Pour Saya Baroun, secrétaire général du syndicat des chauffeurs privés VTC, cet accord est vide de substance. Écoutez-le.
C'est un accord totalement inutile. Quand bien même il sortirait une loi ou une directive européenne qui dirait que plus personne ne peut être requalifié, ce n'est pas rétroactif. Donc sur les 10, 12, 14 dernières années où les plateformes dites ubérisation ont dominé et mis en souffrance énormément de chauffeurs, ils devront payer. Donc là, pour l'instant, la règle numéro une de n'importe quelle indépendance, c'est d'avoir le maîtrise de son propre tarif. Là, les chauffeurs Uber, il n'y en a aucun qui a le contrôle de son tarif. Encore moins le contrôle de sa clientèle, encore moins la gestion de sa clientèle. Ils gèrent rien. Ils appuient sur des boutons et ils vivent comme ça. Vous avez vu l'augmentation du carburant depuis toutes ces années? Ça n'a jamais été répercuté sur les tarifs, puisque le chauffeur ne peut pas le faire. N'importe quel patron indépendant va vous dire, écoutez, ma matière première, elle a augmenté de 40%, mon assurance, elle a augmenté de 20%, cette année, je révise mes prix. Non, pas possible. Je suis Uber, je suis votre intermédiaire, je décide que vous n'avez pas à le faire. Vous appelez ça comme on veut. Vous ne pouvez pas l'accepter. C'est clairement du salariat.
Des propos recueillis par Talita Thierrot. Les parlementaires français attendaient depuis 2 mois de connaître leur programme de travail pour les prochains jours. Hier, enfin, le Premier ministre a dévoilé un calendrier et la principale réforme à venir dès le mois de mai, c'est celle sur la fin de vie. Stéphane Robert.
C'est en effet le projet de loi sur la fin de vie qui constitue la pierre angulaire du calendrier parlementaire des prochains mois. Et il épouse le calendrier électoral, puisqu'il sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai, pour une durée de 2 semaines, soit jusqu'au 7 juin, ce qui correspond aux 2 semaines précédant le scrutin européen prévu le 9 juin. Ce calendrier était attendu depuis 2 mois par le camp présidentiel, depuis la nomination de Gabriel Attal à Matignon début janvier. Le Premier ministre a fait patienter ses troupes jusqu'à la prise de parole d'Emmanuel Macron et le dévoilement de la future loi sur l'aide à mourir, et il a présenté son agenda quelques heures après la publication de l'interview du président par les journaux La Croix et Libération. L'idée d'installer ce débat dans la société française en pleine campagne électorale relève d'une volonté d'opposer le camp des progressistes pro-européens à celui des conservateurs nationalistes. Ce choix d'Emmanuel Macron correspond à des enquêtes d'opinion qui, en théorie, donnent un net avantage aux progressistes pro-européens, puisque plus de 70% des personnes interrogées dans les sondages se disent favorables à l'Union européenne et plus de 70% également favorables à la mise en place d'une aide active à mourir. Le président espère par conséquent faire apparaître, quelques jours avant le scrutin, les réticences des nationalistes conservateurs sur ces deux questions et tout particulièrement les réticences du Rassemblement national qui, pour le moment, fait la course en tête dans les intentions de vote.
Stéphane Robert.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Autre sujet international, celui-là, sur lequel vont débattre les députés dès cet après-midi, le soutien de la France à l'Ukraine.
Oui, un débat suivi d'un vote qui aura pour objet l'accord bilatéral de sécurité entre Paris et Kiev. Vote symbolique, toutefois, le texte a déjà été signé il y a quelques semaines, mais là encore, cette discussion parlementaire aura lieu à 3 mois des élections européennes, ce qui va obliger les partis politiques à clarifier leur position sur ce conflit ukrainien qui a lieu aux portes de l'Union. Alors que contient ce fameux accord bilatéral? Les précisions de Claude Guibal.
C'était l'été dernier au sommet de l'OTAN à Vilnius. Les membres du G7, rejoints par 25 autres pays, s'étaient engagés à signer chacun un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine en l'absence d'un calendrier d'adhésion à l'OTAN. Et suivant Londres et Berlin, Paris s'est donc engagé à son tour, sur 10 ans, à fournir une aide civile et militaire à l'Ukraine pour l'aider à recouvrer l'intégrité de son territoire, préparer sa reconstruction, appuyer son adhésion à l'OTAN et l'Union européenne. Une partie concerne aussi le renseignement, la cyberdéfense, la lutte contre la désinformation. Mais le cœur de l'accord, ce sont les moyens militaires d'une ampleur inédite, 3 milliards d'euros pour 2024. Paris s'engage non seulement à fournir du matériel militaire et à pourvoir à sa maintenance, mais elle va également aider l'Ukraine à développer ses propres moyens militaires, en clair, à fabriquer sur place ses propres armes. L'accord ne détaille pas la liste des armements que la France s'engage à fournir, mais on sait qu'elle comprendra des chars, des canons, des missiles, y compris longue portée. Mais la France ne devrait pas cependant livrer à l'Ukraine les Mirage D2000 que celle-ci réclame. Des avions de chasse spécialisés dans les attaques au sol.
Et puis hier, après plusieurs revers de l'armée ukrainienne face aux forces russes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré optimiste. Il affirme que l'avancée de la Russie a été stoppée et que la situation est bien meilleure sur le front. Ça n'est pas évidemment le même son de cloche en Russie où l'élection présidentielle aura lieu ce week-end. Scrutin sans surprise, la victoire est promise à Vladimir Poutine dès le premier tour. Seul inconnu, le score. On envisage difficilement qu'il soit inférieur aux 76,69% qu'il avait réuni en 2018 lors de sa dernière élection au pouvoir depuis le 31 décembre 1999. Vladimir Poutine s'apprête à repartir pour un mandat de 6 ans sans même faire campagne. Notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
En 2018, on avait beaucoup raillé le service minimum de Vladimir Poutine en campagne. Le président candidat n'avait participé qu'à 2 meetings à quelques jours de l'échéance et encore, il n'avait parlé que 2 minutes à Sébastopol et 3 minutes au stade Loujniki à Moscou. Cette année, il fera encore moins. Aucun meeting de campagne, aucun débat télévisé, ne cherchez pas les affiches sur les murs de Moscou, les militants qui distribuent des tracts, il n'y en a pas. Ne cherchez pas non plus le programme, le candidat Poutine n'en a pas. Il faut se référer au discours devant les deux assemblées il y a 2 semaines où le président avait promis des milliards de roubles de projets, de subventions et de baisses d'impôts. La campagne de Vladimir Poutine se résume à une évidence qu'exprime clairement son clip électoral diffusé à la télévision.
Кто обеспечит развитие? Кто гарантирует стабильность?
Qui assurera le développement? Qui garantira la stabilité? Qui nous unit?
Только в нём.
En qui avez-vous confiance? En lui seul.
Vladimir Poutine serait donc le seul à même de diriger la Russie. Un axiome de la politique russe que personne ne vient contredire, pas même ses 3 concurrents qui débattent entre eux à la télévision. Sur les réseaux sociaux, on annonce déjà un meeting au stade Loujniki le 18 mars, le lendemain du premier tour, avec la participation du président Vladimir Poutine.
Autre élection présidentielle en vue en novembre, l'élection américaine. Hier, Donald Trump a promis de libérer tous les émeutiers du Capitole emprisonnés s'il était réélu. Ils sont 500 environ à avoir été condamnés à de la prison. Donald Trump lui-même visé par 4 procédures pénales, dont 2 pour avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. En sa faveur. Les États-Unis qui offrent l'asile en quelque sorte au Premier ministre haïtien démissionnaire Ariel Henry. Il a confirmé hier soir sa démission au secrétaire d'État américain Tony Blinken. Ariel Henry est le bienvenu s'il souhaite rester dans le territoire américain de Porto Rico où il est bloqué, a déclaré un responsable américain. Médecin réputé mais responsable politique contesté, il s'était emparé du pouvoir après l'assassinat en 2021 du président haïtien Jovenel Moïse. Mais il n'a jamais réussi à mettre fin au chaos dans son pays, en proie à une vague de violence des gangs qui réclamaient sa démission justement. À Port-au-Prince, la capitale, ces gangs ont provoqué la fuite dans la nature de milliers de criminels après l'attaque de 2 prisons. D'autres lieux stratégiques, le palais national ou le commissariat central, ont été pris d'assaut. La population haïtienne, elle, lutte pour sa survie. Omar Waman, envoyé spécial dans la région, a pu joindre avec Benjamin Thio, des habitants de la capitale.
C'est une population exsangue que décrit Hervé Noël, journaliste pour Radio Kiskeya à Port-au-Prince.
C'est une population pratiquement à genoux et les autorités qui sont absentes, il n'y a pas de communication officielle depuis près de 2 semaines. C'est une population qui est livrée à elle-même.
Une situation qui a viré au chaos généralisé dans la capitale, privée depuis plusieurs jours de ses 2 poumons économiques, l'aéroport, théâtre de combat, et du port, livré aux bandes armées.
La situation de l'aéroport international avec les vols internationaux qui sont suspendus, Haïti est pratiquement coupé du monde et les ports qui sont pillés, et maintenant sous le contrôle des gangs.
Une violence qui ne fait qu'aggraver une situation humanitaire déjà extrêmement difficile. Jean-Martin Boer, directeur du PAM, le Programme Alimentaire Mondial en Haïti.
Écoutez, je suis angoissé par la situation. Haïti dépend des importations pour 50% de son alimentation. La fermeture du port de Port-au-Prince est très inquiétante. Elle pourrait se traduire par une raréfaction des produits alimentaires, une hausse des prix. Donc, il faut agir tout de suite. On ne peut plus attendre.
Si la paralysie se poursuit, des milliers de femmes enceintes pourraient ne plus pouvoir accéder aux soins de santé essentiels et vitaux en cas de complications, ont alerté des représentants des Nations Unies.
Omar Waman, un mot du temps de ce mardi en France, pluvieux sur le nord du pays, ensoleillé dans le sud. 6 départements restent en vigilance orange pour des crues. Les températures 4 à 7 degrés ce matin, 11 à 19 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des matins avec vous, Guillaume Erner.
Merci Anne-Laure Chouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton, Ramadan, quelles sont les pratiques des jeunes musulmans ?